de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie s'efforce de résoudre la pandémie de COVID-19 sous la présidence du G20. L'Indonésie reçoit à nouveau un soutien pour le vaccin COVID-19 du Japon. Aucun citoyen indonésien n'a été victime du tsunami au Tonga. Le ministère indonésien de la religion cesse temporairement d'envoyer des pèlerins de la Umrah. La communication est interrompue, il n'y a aucun rapport sur l'impact du tsunami au Tonga. Le porte-parole du gouvernement somalien visé par un attentat suicide. Pékin découvre le cas Omicron. Les habitants font la queue pour des tests pendant des heures. Bon, chers auditeurs, voici le journal incomplet. La directrice de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles directe du ministère de la Santé, Siti Nadia Tarmizi, a déclaré que l'Indonésie jouerait un rôle stratégique en faisant pression pour l'achèvement de la pandémie de COVID-19 sous la présidence du G20. Cette année, l'Indonésie devient la présidence du G20, ce qui signifie que l'Indonésie jouera un rôle très stratégique dans l'élaboration des politiques mondiales, en particulier dans la solution de la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré Nadia lors du webinaire du symposium du Congrès indonésien sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 sans frontières à Jakarta dimanche dernier. Ces politiques mondiales peuvent également viser à anticiper d'éventuelles pandémies à l'avenir et à renforcer la collaboration entre les membres du G20 et dans le monde entier. Nadia a déclaré que le gouvernement doit coopérer avec toute la communauté nationale et mondiale pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Par conséquent, lors du symposium, elle a invité toutes les parties à renforcer davantage la collaboration dans la gestion du COVID-19. L'Indonésie reçoit à nouveau un soutien pour le vaccin COVID-19 du Japon à travers une coopération de partage de doses. Le directeur de l'Asie de l'Est du ministère des Affaires étrangères, Santo Dharmo Sumarto, dans une déclaration écrite reçue à Jakarta dimanche dernier, a déclaré que la livraison d'aide au vaccin était cette fois divisée en 4 lots. Les premiers et deuxièmes lots sont arrivés samedi, après-midi et soir, chacun avec 488 000 doses de vaccin AstraZeneca. Les deux lots sont l'arrivée des 194e et 195e stades de vaccins en Indonésie. Le prochain lot arrivera le 18 et 19 janvier 2022, portant le total à 2 722 930 doses. Auparavant, tout au long de 2021, le Japon avait fourni environ 4,15 millions de doses de vaccins à l'Indonésie. Ainsi, selon Santo, le soutien total à la coopération en matière de partage de doses pour le vaccin COVID-19 du Japon est de 6 875 080 doses. Il a déclaré que ce soutien à la coopération est une forme concrète de partenariat stratégique entre les deux pays, notamment pour aider à accélérer la reprise économique en Indonésie. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré qu'aucun citoyen indonésien n'a été victime de la catastrophe du tsunami au Tonga après l'éruption d'un volcan sous-marin samedi qui a paralysé les lignes de communication. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques indonésiennes du ministère des Affaires étrangères, Judha Nugraha, dans une déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta dimanche dernier. L'ambassade indonésienne, KBRI Wellington, a transmis un avertissement à tous les Indonésiens citoyens dans la zone d'accréditation. L'ambassade d'Indonésie continue également de coordonner et de communiquer avec diverses parties en Nouvelle-Zélande et au Tonga pour connaître la condition des citoyens indonésiens au Tonga. Pendant ce temps, selon le gouvernement néo-zélandais, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun rapport officiel sur les victimes après l'éruption volcanique et le tsunami au Tonga. La région la plus durement touchée a été Tongatapu, l'île principale des Tonga, où de nombreux navires et bateaux se seraient échoués vers le continent. Le ministère de la Religion au Kemenag a temporairement suspendu les vols pour les pèlerins de la Omra à partir du 15 janvier dans le but d'évaluer le programme One Gate Policy ou abrégé en OGP, notamment en surveillant le développement de la variante Omicron en Indonésie et en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du Hajj et de la Omra au ministère de la Religion Hillman dans une émission reçue par Antara à Jakarta dimanche dernier. Le départ de pèlerins de la Omra pendant cette pandémie dure depuis 8 jours depuis le vol inaugural du 8 janvier 2022. Environ 1731 pèlerins sont partis via le Pondok Gede Hajj Embarkation Dormitory, Jakarta. Le programme OGP exige que tous les pèlerins de la Omra arrivant au dortoir de Pondok Gede Hajj effectuent immédiatement un examen médical et remplissent des documents. Il a expliqué que les pèlerins de la Omra qui sont partis le 8 janvier retourneront en Indonésie le 17 janvier 2022. Après le retour des pèlerins en Indonésie, le ministère de la Religion évaluera et verra si les pèlerins ont été détectés ou non par Omicron. La plupart des zones touchées par le tsunami au Tonga étaient encore inaccessibles dimanche car les lignes téléphoniques et internet ont été coupées, de sorte que les rapports sur les dégâts et les victimes n'étaient pas encore disponibles. Un volcan sous-marin dans la nation insulaire du Pacifique est entré en éruption samedi, déclenchant une alerte au tsunami avec des vagues atteignant 1,2 mètre. Des ordres d'évacuation ont été émis au large des Tonga et de plusieurs îles du Pacifique Sud où des séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent des vagues frappant des maisons au bord de la mer. Les services internet et téléphoniques se sont éteints samedi vers 18h40 heure locale, laissant les 150 000 habitants des îles complètement isolés du monde extérieur. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré dimanche, lors d'une conférence de presse, « Il n'y a aucun rapport officiel de blessés ou de décès au Tonga en raison d'une communication limitée et de l'absence de contact avec les zones côtières en dehors de la capitale Nuku'alofa. » Un porte-parole du gouvernement somalien a été blessé dimanche dans une explosion en carrefour menée par des kamikazes dans la capitale Mogadiscio, selon la police et l'agence de presse nationale. Des photographes, des reporters présents sur les lieux ont vu des parties du corps humain gisant sur le sol devant la résidence de Mohamed Ibrahim Moalimou qui a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le porte-parole de la police, Abdi Fattah Aden, a déclaré à Reuters que le kamikaze visait un porte-parole du gouvernement qui est actuellement soigné à l'hôpital pour des blessures causées par l'explosion. Il n'était pas immédiatement clair qui était derrière l'attaque. Dans le passé, la milice Al-Shabaab, liée à Al-Qaïda, a revendiqué un certain nombre d'attaques à main armée et à la bombe contre des cibles sécuritaires et gouvernementales ainsi que des civils. Al-Shabaab a l'intention de renverser le gouvernement central soutenu par les Nations Unies. Ils ont également mené des attaques contre des casques bleus de l'Union africaine. La Chine a signalé dimanche 65 cas de transmission locale de COVID-19 pour le 15 janvier, dont le premier cas de la variante Omicron à Pékin, quelques semaines seulement avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver le 4 février et les vacances du Nouvel An lunaire. Ce chiffre est en baisse par rapport à 104 cas la veille, lors que l'épidémie dans la ville de Xi'an, au nord-ouest, s'est atténuée après un confinement strict. Cependant, une variante hautement contagieuse d'Omicron a été détectée dans au moins 5 provinces et municipalités, incitant les villes à mettre en place des restrictions pour empêcher la propagation du virus et menacer la croissance économique. Samedi, la capitale Pékin a signalé le premier cas de la variante Omicron chez une personne qui avait visité plusieurs centres commerciaux et restaurants au cours des 14 derniers jours. Cette personne n'a pas encore quitté la ville depuis le début de l'année. Comme l'a rapporté Reuters, certains habitants de Pékin qui craignaient d'être piégés dans cette ville avant les vacances du Nouvel An lunaire se sont précipités pour rentrer à sa ville natale plus tôt. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « L'Indonésie arrête temporairement le départ des fidèles de la Umrah ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le gouvernement indonésien a commencé à autoriser le départ des pèlerins de la Umrah vers l'Arabie Saoudite. En Indonésie, où la majorité de la population est musulmane, la Umrah est l'un des cultes importants que beaucoup convoitent. Depuis la pandémie, la mise en œuvre qui implique un voyage à la Mecque en Arabie Saoudite a été contrainte de s'arrêter.
Cependant, avec le développement des cas de COVID-19 qui se multiplient dans le monde, notamment en Indonésie, le service de la Omra a recommencé à être assuré. Les premiers pèlerins de la Omra cette année ont quitté l'Indonésie le 8 janvier 2022. Il y a 1731 pèlerins qui sont partis en utilisant le programme One Girl Policy, OGP. Le directeur général du Hajj et de la Omra au ministère indonésien des religions, Hilman Latif, a déclaré que le programme One Stop Policy exige que tous les pèlerins de la Omra soient mis en quarantaine pendant une journée avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite via l'aéroport Soekarno-Hatta. Ils doivent effectuer un examen médical et remplir des documents, y compris des examens PCR standard du ministère de la Santé. Cependant, le ministère indonésien de la religion a récemment déclaré qu'il suspendait temporairement les vols pour les pèlerins de la Omra à partir du 15 janvier 2022. Cette décision était un effort pour évaluer le programme One Girl Policy, OGP, y compris la surveillance du développement de la variante Omicron en Indonésie et en Arabie Saoudite. Selon le calendrier, les pèlerins de la Omra partis le 8 janvier rentreront en Indonésie aujourd'hui, 17 janvier 2022. La direction générale du Hajj et de la Omra observera les conditions sanitaires des pèlerins à leur arrivée dans le pays, notamment dans le cadre de la développement du coronavirus Omicron. Compte tenu du nombre croissant de personnes qui ont été récemment exposées à la variante Omicron, la politique d'arrêt temporaire du départ des pèlerins de la Omra doit être comprise par les futurs pèlerins de la Omra et les organisateurs de voyages de la Omra. La lettre circulaire de la Direction générale de l'organisation du Hajj et de la Omra du ministère indonésien de la région mentionne diverses règles pour les pèlerins de la Omra après avoir voyagé à l'étranger. Entre autres, il est obligatoire d'effectuer la quarantaine conformément aux dispositions de la Task Force COVID-19 dans les hôtels qui ont obtenu la légalité. La période de quarantaine stipulée pour les voyageurs étrangers entrant en Indonésie et de 7,24 heures. La suspension temporaire et l'évaluation de l'organisation du pèlerinage de la Omra sont bien sûr pour le bien de nombreuses personnes. Le directeur général du Hajj et de la Omra, Hilman Latif, a également souligné que cette évaluation s'inscrit dans le cadre du développement d'Omicron en Indonésie et en Arabie Saoudite. Mieux vaut prévenir que guérir, y compris la prévention complète de la propagation du coronavirus Omicron qui pourrait survenir lors du pèlerinage de la Omra. Les mesures prises par le gouvernement et suivies par toutes les parties devraient empêcher l'Indonésie de connaître un pic de cas de la variante Omicron du coronavirus COVID-19, qui devrait se produire de la mi-février au début mars 2022. Espérons qu'aucun pèlerin de la Omra ne soit exposé au coronavirus COVID-19 avec toutes ses variantes, en particulier la variante Omicron. Puisse l'évaluation qui sera menée par le ministère indonésien de la religion et des cultes être couronnée de succès, pour que le départ des pèlerins de la Omra puisse être à nouveau effectué. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒーコナーイヤハミーコムワコナーウコムヤハミニ
ー让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 janvier 1948. L'accord de Renville est signé par l'Indonésie et les Pays-Bas. L'accord de Renville est un accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas négocié par la Commission des Trois Nations, les États-Unis, l'Australie et la Belgique. L'accord a commencé en décembre 1947. Et a été signé le 17 janvier 1948 sur le pont du navire de guerre américain USS Renville en tant que base neutre qui était ancrée au port de Tanjung Priok, Jakarta. Le contenu le plus important de l'accord de Renville était que les Néerlandais ne reconnaissaient que le centre de Java, Yogyakarta et Sumatra comme territoire indonésien. Il y avait une ligne de démarcation entre l'Indonésie et les Pays-Bas et l'armée indonésienne devait quitter les zones contrôlées par les Néerlandais. Cependant, l'accord de Renville est devenu brou après que les Néerlandais ont lancé une agression contre Yogyakarta et arrêté le président Sukarno et le vice-président Muhammad Hatta. Nous continuons avec l'événement du 17 janvier 1961. Le dirigeant congolais Patrice Lumumba a été assassiné. Patrice Lumumba a été le leader anticolonial africain et le premier ministre démocratiquement élu de la République démocratique du Congo, après l'indépendance de la Belgique en juin 1960. Patrice Lumumba a restauré la dignité de son pays, mais opposé par les nations occidentales, notamment la Belgique, la France et les États-Unis. Les trois pays ont alors conspiré avec le régime local au Congo, le chef tribal et l'armée pour renverser Lumumba. 10 semaines plus tard, la direction de Patrice Lumumba a été renversée par un coup d'État. Il a ensuite été emprisonné et tué le 17 janvier 1961, un acte commis avec l'aide du gouvernement belge. Enfin, en 2002, le gouvernement belge a officiellement présenté ses excuses au peuple congolais pour son implication dans le coup d'État et l'assassinat de Patrice Lumumba. Chers auditeurs, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec 17 janvier 1995. Un tremblement de terre majeur secoue la ville portuaire de Kobe. Un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter a dévasté la ville de Kobe au Japon et fait plus de 6400 morts, blessant plus de 40 000 habitants et environ 300 000 sans-abri. Selon le Japan Times, ce tremblement de terre était le premier tremblement de terre majeur à frapper une grande ville japonaise depuis la Seconde Guerre mondiale. Le séisme de magnitude 6,9 s'est produit le matin vers 5h46 heure locale, même si cela n'a duré qu'en environ 12 secondes, il y a eu environ 240 000 maisons détruites par cette grande vibration, sans compter l'infrastructure de la ville qui a également été détruite. En conséquence, environ 316 000 personnes ont dû être évacuées vers des lieux de réfugiés considérés comme plus sûrs. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde,
sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre L'Indonésie et la Norvège collaborent au développement de l'aquaculture. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche continue d'augmenter la productivité de l'aquaculture nationale. En plus d'initier un programme révolutionnaire, il soutient également le développement de l'aquaculture initié par les communautés, les organisations de l'élevage ainsi que les parties privées en encourageant une productivité accrue. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyutonggono, l'a déclaré après avoir assisté à la signature du protocole d'accord entre la Société indonésienne d'aquaculture, MAI, Norway Connect. Norway Connect est une organisation qui aide les entreprises norvégiennes à mener des activités commerciales dans la région de l'Asie du Sud-Est, y compris l'Indonésie. Un protocole d'accord a également été signé entre Multidaya Aquaculture Indonesia Société Anonyme et Seven Stone Indonesia SSI, une société orientée vers le soutien à l'intégration des entreprises nordiques et locales, souhaitant pénétrer la part de marché indonésienne ou la part de marché européenne depuis l'Indonésie. La signature du protocole d'accord a eu lieu au bureau du ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche à Jakarta, mercredi le 12 janvier dernier. Le ministre Tenggono a déclaré que cette collaboration est également un effort pour renforcer les relations entre l'Indonésie et la Norvège dans le secteur de la mer et de la pêche. Il a admis que la Norvège dispose d'une technologie de culture aquacole qualifiée qui peut être adoptée par les cultivateurs en Indonésie pour augmenter le volume et la qualité des produits. À la même occasion, l'ambassadeur de Norvège en Indonésie, Ruth Kruger Ziverang, a également apprécié la coopération qui est établie. Elle pense que la co-conjoint contribuera à accroître le développement de la culture aquacole en Indonésie. Ruth Kruger assure également que son pays est prêt à partager ses expériences avec l'Indonésie, tant dans les domaines de la technologie, des pratiques culturelles que des marchés. Pendant ce temps, le président de la Société indonésienne d'aquaculture, Rohmin Dahuri, a expliqué qu'avec ce protocole d'accord, il existe un investissement potentiel de 35 millions de dollars américains, en particulier pour les produits aquacoles de la qualité supérieure, tels que les crevettes vanam, le merou et le barramundi. En outre, des programmes d'économie bleue sont soutenus, notamment la plantation de mangroves, la réhabilitation des récifs coralliens et le développement d'activités de culture à l'échelle communautaire. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
jangan kau benci dirimu. Apapun yang kau widap atau menghantui, bukan halanganmu untuk kalahkan hari. Kamu berarti,
kamu berarti.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ses auditeurs, à Bontang, dans la province de Kalimantan Oriental, il y a une belle île, à savoir l'île de Bekasbasa. C'est une petite île située sur le détroit de Makassar, dans la province de Kalimantan Oriental. Administrativement, l'île est située sous le gouvernement de la ville de Bontang. La belle île devient la destination des amateurs de plongée et de plongée en apnée. L'accès le plus rapide pour atteindre cette île se fait par le quai de Badak NGL en utilisant le bateau rapide qui prend environ 15 minutes. Les auto-accès se font par le quai de Tanjung Limau et de Tanjung Laut de la ville Bontang en utilisant un bateau à moteur et prend environ 1 heure. Chers auditeurs, l'origine du nom Bekasbasa ou en français signifie le riz humide. Selon le folklore local, il y a longtemps, il y avait un navire appartenant au sultanat de Kutai qui naviguait dans le détroit de Makassar. Le navire transportait de la nourriture, donc du riz. Puis, le navire a coulé lorsqu'il a été frappé par une grosse vague et a renversé ses bagages. Presque les eaux où le navire a coulé étaient peu profondes, la cargaison du navire qui était principalement du riz n'a pas coulé, mais certaines ressemblent à un monticule. Au fil du temps, le monticule de riz s'est transformé en une île de sable blanc comme le riz, toujours humide car entouré par l'océan. L'île de Bekasbasa, située au milieu de la mer, avait une superficie d'environ 5 hectares. Parce qu'elle est érodée par l'eau de mer, l'île ne fait plus que 2 hectares de large. Mais sa beauté est incontestable. La plage est de sable blanc propre avec de l'eau de mer qui est turquoise clair, ajoutant des cocotiers dispersés à plusieurs endroits pour fournir de l'ombre, ce qui est confortable pour se détendre. De plus, sur cette île, il y a aussi des belvédères, des vestiaires, des toilettes et des stalles. Sur l'île de Bekasbasa, vous pouvez également jouer avec des bateaux bananes et d'autres activités. Pour ceux d'entre vous qui aiment la beauté de la mer, vous pouvez essayer la plongée et la plongée en apnée. Vous pouvez également vous promener le long de la plage et si vous avez de la chance, vous pourrez trouver des animaux marins tels que des oursins, des calamars et des concombres de mer. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Friday night, staying up late, laying down side to side. Feels like nothing to be afraid of anything, just enjoy the ride. Hold me, hold me, hold me.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est berwisata, je répète, berwisata, en français voyager. Je vais vous donner une conversation dont le titre est « Wisata apa yang menarik ?» Wisata apa yang menarik signifie quelle attraction touristique est intéressante. Bonne écoute. Cette conversation a eu lieu alors que Kevin était en route pour l'hôtel. Kevin a téléphoné Mela. Kevin veut connaître les attractions touristiques à Bandung.
Mel, wisata apa yang menarik di Bandung?
Wisata alam Tangkuban Perahu.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Wisata apa yang menarik? Wisata apa yang menarik signifie quelle attraction touristique est intéressante? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Wisata. Wisata signifie attraction touristique. Apa. Apa signifie quel. Yang menarik. Yang menarik signifie qui est intéressant. Di Bandung. Di Bandung signifie à Bandung. Apa yang menarik. Apa yang menarik signifie ce qui est intéressant. Wisata apa yang menarik. Wisata apa yang menarik signifie quelle attraction touristique est intéressante. Wisata apa yang menarik di Bandung. Wisata apa yang menarik di Bandung signifie quelle attraction touristique est intéressante à Bandung. Wisata apa yang bagus di sini. Wisata apa yang bagus di sini signifie quelle attraction touristique est bonne ici. Wisata air terjun. Wisata air terjun signifie l'attraction touristique de la cascade. Restaurant. Restaurant signifie le restaurant. Restoran apa yang enak di sini? Restoran apa yang enak di sini? Signifie quel restaurant est bon ici? Nasi liwet. Nasi liwet signifie le riz liwet. Dekat stasiun kereta. Dekat stasiun kereta signifie près de la gare. Restoran nasi liwet dekat stasiun kereta. Restoran nasi liwet dekat stasiun kereta signifie le restaurant de riz liwet près de la gare. Dans la conversation, vous entendez wisata apa yang menarik? Wisata apa yang menarik signifie quelle attraction touristique est intéressante? Vous pouvez utiliser cette expression lorsque vous demandez à d'autres personnes des opinions ou des recommandations sur des endroits intéressants à visiter. Un autre exemple. Écoutons un autre exemple pour demander des opinions et des recommandations à d'autres. Wisata apa yang bagus di sini? Wisata apa yang bagus di sini signifie quelle attraction touristique est bonne ici? Wisata air terjun. Wisata air terjun signifie l'attraction touristique de la cascade. Restoran apa yang enak di sini? Restoran apa yang enak di sini signifie quel restaurant est bon ici? Restoran nasi liwet dekat stasiun kereta. Restoran nasi liwet dekat stasiun kereta signifie le restaurant de riz liwet près de la gare. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Mel, wisata apa yang menarik di Bandung?
Wisata alam Tangkuban Perahu.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Aku bukan budak cinta, ku bukanlah budak cinta.
Kau berdalih jaga hati, kau tuntut aku mengerti. Kau mengunci pintu hati, kau tuntun aku berpikir. Penting untuk terus memahamimu, tak mengungkit yang telah terjadi. Terkadang ku tak sadarkan diriku, selama ini ku dibohongi. Ku bukan budak, ku bukan budak cinta. Ku bukan budak, ku bukan budak cinta. Jaga hati, kapanpun ku bisa pergi. Ku memilih hati-hati, ku tak perlu menghindari. Penting untuk terus memahamimu, tak mengungkit yang telah terjadi. Terkadang ku tak sadarkan diriku, selama ini ku dibohongi.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson intitulée Tersenyum, chantée par Hetty Kusendang. Chers amis, cette chanson a été créée par le maître keroncong indonésien Gesang. La chanson contenue dans l'album de keroncong Hetty Kusendang, volume 1, raconte l'histoire d'une personne contemplant sa riche et radieuse patrie. Un nomade qui se souvient de sa patrie en chantant une chanson avec un cœur heureux. Bon, chers auditeurs, voici Hetty Kusendang va chanter une chanson keroncong intitulée Tersenyum. Bonne écoute. Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.